With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût, ravi de vous retrouver. Et bien sûr, je vais présenter cette émission avec un invité exceptionnel, mais avant tout, surtout, avec Olivier Canton. Salut Olivier.
Oui, surtout, c'est vraiment moi le plus intéressant. Évidemment, Poulard Affût, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter ce podcast et à vous abonner. Parle-nous maintenant de notre invité. Qui est notre invité cette semaine? C'est pas n'importe qui.
Alors, je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler justement d'une confrontation. J'ai eu la chance de jouer quelques classicos dans les années 2000 entre le Stade français et le Stade toulousain, à l'époque où quelques bourre-pifs et autres nuquettes appuyées étaient encore tolérées. Cette rivalité se ressent encore à chaque confrontation entre le club de la capitale, Paris, et la capitale du rugby, Toulouse. Ça me fait un peu mal au cul de le dire, mais il faut dire ce qui est quand même, le jeu à la toulousaine, il fait un peu rêver en ce moment. Je me suis amusé à compter d'ailleurs le nombre de titres glanés au 21e siècle, persuadé que mon club de cœur, donc le Stade français, vous l'aurez bien compris, était le club qui avait gagné le plus de titres ces 20 dernières années. Eh bien non. 5 titres pour chaque club, nous sommes à égalité, forcé de constater qu'aujourd'hui, Toulouse est au-dessus. Premier du top 14, champion de France en titre, après une période de vache maigre ces 10 dernières années, avec le slogan « Jeu de main, jeu de Toulousain » n'a jamais aussi bien résonné au 7 deniers que depuis l'arrivée de cette nouvelle génération élevée au biberon du fameux « Assis-toi et donne ». Pour ma part, j'ai essayé une fois de les imiter, claquage à la clé. Malheureusement, vidé de ses supporters, mais toujours autant plaisant à voir jouer que sous l'ère Michalak, Poitronneau, Claire, Josion, Fritz et j'en passe, la tradition perdure de génération en génération et notre invité en est la preuve vivante. Formé au Stade toulousain, il a connu du haut niveau. Il a connu le haut niveau depuis ses débuts en top 14 en 2005. Champion de France de Pro D2 avec Agen, il passe par Bayonne avant de revenir dans son club de cœur en 2010. Club avec lequel il remporte 2 boucliers, 62 sélections au compteur, 14 essais à la clé, 2 quarts de finale de Coupe du Monde, 6 participations au tournoi Destination. Il a vu évoluer, le rugby avec l'arrivée d'une nouvelle génération, je viens de vous l'expliquer, et l'arrivée aussi des réseaux sociaux et l'hyper-professionnalisation de son sport. Johan Huger a annoncé la fin de sa carrière au terme de cette saison étrange où le Stade toulousain semble survoler les débats. 16 ans de carrière au plus haut niveau, des très bas, l'homme ne fait pas dans la demi-mesure. J'en veux pour preuve son doublé contre le Stade français il y a peu, avec ses cannes de 20 ans à bientôt 34 ans. Adoré très souvent, détesté parfois, c'est le prix à payer quand on fait partie de la classe des grands. Et comme les plus grands, il a choisi sa porte de sortie en espérant, on lui souhaite, même si c'est un mec du Stade français qui le dit, de surfer sur le bouclier un soir de juin au Stade de France, en espérant qu'il y ait un stade rempli, souhaitons-le pour notre cher rugby. Bienvenue Johan Huger dans Poulain Raffut.
Merci beaucoup.
Bon, c'est cool.
On essaye
d'avoir une petite plume, tu vois, d'avoir un petit peu ce côté artistique, tu vois. Je l'assume complètement. Et puis c'est on a suivi ta carrière quand même, comme j'ai dit depuis 2005 avec l'équipe de France. Alors avant de parler de ta carrière, avant de parler aussi de cette annonce de la retraite que tu as fait sur Canal+ il y a peu, moi je voulais savoir, le Stade toulousain se porte bien, premier de top 14, champion de France en titre. Alors facile à dire avec la saison de merde qui s'est passée, tu l'as vécu de l'intérieur, victoire écrasante contre Agen, ils en ont chié les mecs hein, face à vous, et victoire, et ça me fait chier de le dire aussi, face au Stade français, le Stade toulousain va bien.
Il se porte bien, il se porte très bien. On a essayé de retrouver ce lien qui a fait de nous les champions en 2019 et on est en train de retrouver cette complicité qu'on peut avoir sur le terrain parce qu'en dehors, elle n'est jamais partie. Mais comme tu sais, un grain de sable, des fois, peut tout changer. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver cette confiance déjà et d'avoir confiance au jeu qui nous fait gagner surtout.
Ouais, et puis vous avez quand même une génération, enfin qui, tu vois, les Ramos, les Dupont, les Ntamak qui arrivent en équipe de France. On parlera bien sûr avec toi de l'équipe de France. Moi, j'avais une question à te poser. T'as connu l'ère Noves avec ce côté un peu paternaliste. Tu pourras nous en parler 2 secondes. Et puis il y a le côté Hugo Mola. Passer derrière Noves, c'est comme passer aussi derrière Max Gozzini au Stade Français. C'est très 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 compliqué d'arriver à faire perdurer cette tradition. Hugo Mola y arrive bien avec cette nouvelle génération et puis aussi les anciens comme toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois de Guy Noves, ton expérience avec Guy et puis ton expérience avec Hugo aujourd'hui?
Ben, Elle est totalement différente parce que c'est deux époques et Guy, tout le monde connaît Guy. Il est dans le. Il faut rien, jamais rien lâcher, que ce soit la 19e minute, dès la première, il est toujours à 200% et on fait une erreur, il est capable de nous en rappeler 6 ans après. La même erreur, à quel moment? Donc on savait qu'on avait. On avait quelqu'un derrière nous pour nous transmettre ça, cette envie de gagne surtout qui était important et qu'on voyait le Stade Toulousain à l'approche des phases finales quasiment se transformer. Et c'était grâce à lui parce qu'il arrivait à remobiliser toute l'équipe. Il était quelqu'un de fédérateur malgré tout. Et on faisait pas de stage. Ça m'étonnait beaucoup parce que tous les clubs partent en stage en début de saison. Guy, début de saison, enfin, bah, il s'en foutait, mais on partait jamais en stage, on faisait jamais, mais on partait tous les week-ends au vert pour se retrouver, pour passer du moment ensemble. Et à l'approche des phases finales, vers avril, on partait une semaine en stage avant de lancer le sprint final. Et je pense que c'est ce qui faisait la différence avec les autres équipes, c'est qu'on était capable de se transcender sur des matchs très très importants. Là, on est passé sur un rythme avec Hugo où tous les matchs sont importants. Il a compris et il est passé par une période un peu compliquée entre la transition de Guy, la génération de Guy et la nouvelle génération avec Thomas, avec Cyril Bailly, les trois petits cochons, Julien Marchand et Dorian Aldeguerri. Donc, il les a élevés, voilà, comme a pu faire Guy avec d'autres joueurs. Mais il a surtout intégrer tout le centre de formation avec l'équipe première. Donc pour vous, quand vous voyez des jeunes arriver, comme Lucas Tauzin ou Mathis Lebel, c'est des joueurs qui travaillent avec nous depuis 4-5 ans déjà. Donc quand ils arrivent dans l'effectif, ils ne sont pas perdus, ils connaissent tous les repères et ils leur donnent du temps de jeu au fur et à mesure des saisons. Et c'est pour ça qu'on arrive à trouver cette alchimie, cette osmose qui marche bien.
Et aussi autour des joueurs aussi, parce qu'on sait que Clément Pointrono est dans le staff. Hein, il y a une volonté aussi de, et on te posera là, mais je vais te la poser maintenant. En fait, la question, c'est que vu que tu arrêtes ta carrière en fin d'année, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de rester? Parce qu'en fait, il y a une histoire. Tu vois, on parle beaucoup de famille, et je pense que beaucoup de clubs devraient s'imprégner de ce qui se passe à Toulouse aujourd'hui. C'est de cette identité toulousaine. On a parlé du jeu à la toulousaine, mais il y a aussi cette volonté, en fait, d'intégrer les anciens dans le staff pour qu'ils puissent gravir l'échelon et reprendre le flambeau au fur et à mesure. C'est aussi ça qui fait aussi la force de Toulouse.
C'est ça, c'est ça. On parle de Clément, mais on parle d'Emilien Tamac, de Jérôme Casalbou, Thomas Castagnette qui est dans l'administratif. Voilà. Didier est un peu comme Guy, il fédère autour de lui, il rassemble, Fabien est revenu au club. Voilà, il fédère autour de lui tous les anciens qui ont porté l'image du Stade Toulousain. Et c'est important parce que les joueurs, quand ils arrivent au Stade Toulousain, ils ne jouent pas avec le joueur actuel, mais ils jouent avec tout l'ensemble du club. C'est-à-dire que l'administratif, on les voit tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait que ce club-là est quand même différent.
Didier, je précise, hein, c'est Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Pour en revenir à l'aspect purement sportif, Johan, tu parlais des matchs importants. Il y en a un gros match important ce week-end avec le déplacement à La Rochelle. Stade Toulousain premier face à La Rochelle, son dauphin. Il y a 3 points d'écart. Ce sont des matchs évidemment excitants à jouer. Il y a, j'imagine, l'excitation là autour dans le groupe pour jouer ce match-là.
Bien entendu, on n'a pas la chance de jouer la Coupe d'Europe. Pour nous, c'est un match de Coupe d'Europe et on doit élever tous notre niveau de concentration, de joueurs, tout simplement, pour arriver à donner à la place de jouer la Coupe d'Europe ce match-là qui est quand même important pour la suite de la saison, mais qui n'est pas éliminatoire. Donc, on veut juste tester et essayer de donner le meilleur pour voir, ben pour juste voir où on en est, en fait.
Bah, vous savez où vous en êtes là, vous êtes dans une dynamique incroyable, vous gagnez tous vos matchs, vous marchez sur tous vos adversaires, vous n'avez pas besoin de vous tester quand on écrabouille le Stade français à Agen, comme vous venez de le
Calme-toi,
faire.
calme-toi, Olivier, calme-toi. Ne
Ouais,
t'emballe pas.
voilà. Moi, c'est...
Non, mais c'est vrai que
Non, mais tout peut aller
tout le
vite,
monde vous
tout peut
voit,
aller
tout le
vite.
monde vous voit favori. Là, Mathieu Blin, encore hier dans la presse, qui disait que pour lui, le Stade toulousain était au-dessus, quoi.
Bien sûr, on a vu beaucoup d'équipes pendant les phases de championnat être au-dessus et puis arriver en phase éliminatoire, c'est un peu plus. C'est un autre championnat qui démarre. Là, on veut juste aller chez un gros, se tester, voir ce que ça. Ouais, ce que ça peut donner avec des internationaux en moyen, voir la qualité du groupe. C'est juste, ouais, on y va avec beaucoup de plaisir en tout cas, parce qu'on n'a pas la chance de jouer la Coupe d'Europe. C'est ce qui anime quand même pas mal le club. Et ces matchs-là, pour nous, c'est comme un match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Et on y va sans pression, vraiment sans pression. Et pour prendre un maximum de plaisir, ça va être un long week-end. On joue dimanche à 21h. Ça va nous permettre de passer pas mal de temps ensemble. Et ouais, on va prendre du plaisir.
Olivier vient de le dire, et je le vois encore, et on l'a vu encore ce week-end, Toulouse impressionne. Est-ce que c'est l'une des meilleures équipes toulousaines avec laquelle tu as pu jouer? Tu as connu, on l'a dit, hein, ces 10 dernières années, on va parler de l'équipe de France, tu as connu voilà, deux générations, celle des Josion, Fritz, Michalak, tu as connu cette génération. Il y a une génération, comme tu viens de l'expliquer, qui arrive avec les fameux trois petits cochons. Alors celle-ci est très bonne, mais ça c'est cadeau et c'est pour eux. On fera, Seb, s'il te plaît, une petite captation des trois petits cochons sortis de la bouche de Yoann Huger. Merci. est-ce que c'est, toi, en tant qu'ancien, voilà, bah, toi, t'es arrivé, on l'a dit, hein, en 2005, c'était vraiment, t'étais aux prémices de ta carrière professionnelle. Là, t'es à la fin de ta carrière. T'as vu évoluer tellement de monde à l'intérieur de ce club. Cette génération-là, elle fait plaisir à voir. Il y a un titre, vous êtes champion de France en titre. Est-ce que c'est l'une des meilleures équipes avec laquelle tu as pu jouer aujourd'hui?
C'est difficile de répondre à cette question. Parce
il y a
que,
toujours, sache qu'il y a toujours une question conne. Et bien, c'est celle-là, tu vois. J'ai toujours une question conne qui me vient, ouais, comme mais... ça, ben c'est celle-là.
Sur l'osmose de l'équipe, sur le fait de travailler dur ensemble, et je pense que c'est l'équipe... la plus homogène avec laquelle j'ai joué et où on arrive à performer régulièrement. Alors qu'on savait, on avait des phases compliquées avec l'ancienne génération parce qu'ils avaient tellement gagné de choses qu'ils savaient comment faire. Mmh. Et des fois, on n'était pas inquiet. On perdait deux ou trois matchs d'affilée. Une fois, on s'est retrouvé, je crois, avant-dernier parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des cartons rouges. On n'était pas affolés. Tout le monde autour de nous s'affolait. Et Guy avait cette faculté, cette force de nous laisser dans notre bulle et de prendre tout pour lui. Donc, c'était. Et après, on s'est qualifié quand même pour les barrages, la demi. Et voilà. Donc, c'est deux générations complètement différentes. Mmh. Je pense tout aussi folles. Parce que des mecs, la veille de jouer une finale, on joue au badminton, on joue à la pétanque. Enfin, j'étais là, ces mecs, ils sont fous. Et des fois, on fait des entraînements pas terribles. Et on s'est dit, putain, ce match-là, si on joue comme on s'entraîne, ça va être compliqué. Et puis, le match, il se passe très bien. Il n'y a plus de repères, en fait, avec cette nouvelle génération. Ils sont fous. Tu ne peux pas te dire, on passe une semaine de merde à l'entraînement, donc on va faire un match de merde. Non, avec eux, non. Ils arrivent sur le match, ils sont prêts et on joue, quoi.
D'accord, donc c'était la différence avec, comme je dis, toi tu es sur deux générations, en fait, tu chevauches deux générations, et c'est vrai que tu as connu les cintrés, les débiles, donc ma génération. Ouais, Dieu sait, comme je le dis toujours, hein, j'étais titulaire en troisième mi-temps et moins sur les deux premières, donc je connais cette débilité, tu vois, et cette génération-là actuelle.
William Servat, avec William Servat en fer de lance, qu'on gagne ou qu'on perd, il fallait boire un verre. Enfin, il y avait vachement de cohésion autour de l'équipe, et c'est ce qui a mené à ce qu'on arrivait à performer sur les phases finales, parce que il y avait des fédérateurs, mais comme Guy ou William, qui étaient pour la vie de groupe et comme il peut l'être en équipe de France, et c'est ce qui est arrivé pour qu'on ait des résultats dès que ça allait un peu mal, et il arrivait à remobiliser un peu tout le monde. Alors, et cette nouvelle génération là ils n'ont pas besoin de...
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui change, en fait? Qu'est-ce qui a changé entre la génération de William et l'actuelle? Ils n'ont pas besoin de...
Ils sont prêts, quoi. Les jeunes, ils sont prêts.
Ils sont hyper... Voilà. Je parlais d'hyper professionnalisation, c'est ça.
Voilà. Moi, aujourd'hui, quand Guy nous a amené tous les jours, toutes les semaines au vert, pour moi, ça me permettait de switcher. J'avais un jour et demi pour préparer le match. Voilà, c'était un travail à faire. Là, aujourd'hui, pour jouer que le Stade français ou Agen, on est parti le jour même pour jouer Agen à midi, je crois. Le Stade français, on joue à 21h, on est arrivé à 17h. Donc voilà, les mecs, ils sont prêts. À 17h, ils arrivent avec la banane, pas stressés. Ouais, et ils m'amènent aussi là-dedans, dans cette nouvelle forme de préparation.
Les rapports ont été compliqués d'ailleurs au début, quand ces jeunes sont arrivés avec cette attitude différente par rapport à ce que tu avais connu par le passé.
Non, ça n'a pas été du tout compliqué. En fait, c'était pas à eux à s'adapter à nous. Il fallait juste que nous, on s'adapte à cette nouvelle génération, à cette fougue, cette folie qu'ils peuvent avoir. Mais des fois, il faut aussi tempérer tout ça et dire attention, les gars, là, on va un peu dans le mur, il faut travailler un peu plus, mais ils le font. Je ne peux pas dire à Antoine Dupont de travailler un peu plus ou à Romain Tamac, c'est des mecs qui sont pros depuis l'âge de 18 ans. Ils mangent rugby, ils dorment rugby, donc il n'y a pas de souci avec ça.
Alors, on a parlé de Toulouse. Toulouse est lancée. Maintenant, on va parler de cette fin de carrière annoncée, cette surprise à 34 ans. Alors, c'est jeune, hein. Bon, d'un autre côté, moi, j'ai arrêté à 25, donc je suis encore plus jeune. Mais voilà, 34 ans, 33 ans, pardon, mais tu auras 34 ans en juin, d'après ce que. Ça, ouais. Hein, putain, le journaliste, qu'est-ce que je suis bon, bordel. C'est... 7 juin, c'est ça?
Dans deux.
Donc bref, comment ça se passe d'ailleurs depuis cette annonce? Est-ce que c'est un soulagement? Mais en t'entendant parler, tu parles de cette nouvelle génération, est-ce qu'il n'y a pas peur d'avoir un peu des regrets? De toute façon, on en a toujours un peu, parce qu'on aura envie de jouer jusqu'à 50 ans, mais ça a été un soulagement
Ouais, voilà, c'est la période un peu de Covid, le fait de passer plus de temps en famille... Je me suis dit, c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment. Enfin, je ne me voyais pas jouer ailleurs. J'ai déjà fait la Pro D2 avec Agen. J'ai déjà fait Bayonne, où on a lutté pour le maintien. C'est des championnats qui sont totalement différents. Mmh. C'est pas pareil que quand tu joues au championnat, que tu es premier, second, que tu perds deux matchs, tu te retrouves quatrième. C'est pas la même pression que quand tu te retrouves dernier, avec la descente d'un club, avec des salariés. Enfin, et je ne me voyais pas repartir là-dedans, sincèrement. Et voilà, c'était la bonne...
Le bon moment, ça coulait de source.
Le bon moment, et mes pépins physiques aussi m'entraînent à me dire que voilà, je n'ai pas envie, sur la dernière année, de peut-être me péter un tendon d'Achille alors que j'ai très très mal. Alors que je le sens venir, on pousse, on repousse la machine. Et au bout d'un moment, pour que ça se repose, il faut qu'elle casse, donc je n'ai pas envie d'en arriver là.
Mmh. Oui, comme tu l'as dit, dans ton évolution, tu as connu la Pro D2, tu as connu le Top 14, tu as connu des titres, l'équipe de France, et on va en parler, bien sûr. Derrière, est-ce que c'est une décision? Alors, je pense que c'est une décision qui est prise en famille, aussi avec ta femme, parce que le fait de continuer peut-être ailleurs, comme tu dis, en Pro D2, c'est aussi emmener sa famille aussi. Alors, les gens s'en rendent pas compte aussi, mais tu prends la famille, tu emmènes les enfants, tu pars sur une autre aventure. La Pro D2, tu l'as dit, c'est plus rude. Donc, c'est une décision que tu as pu prendre aussi avec ta femme. Et comment a pu réagir? Alors, deux questions en une. Décision prise avec ta femme, et comment ont réagi aussi tes proches, les amis, la famille?
J'en ai parlé à personne.
D'accord.
On a discuté avec ma femme. Ma fille rentre au CP, la dernière va rentrer à l'école, elle a 3 ans, elle va rentrer à l'école. C'est une étape importante pour les enfants. Et j'ai pas envie de l'amener dans une école et qu'elle change... Et qu'elle change au bout d'un an parce qu'on doit redéménager. Et voilà, tout était réuni. On a discuté avec ma femme. Tout était réuni pour que j'arrête et pour qu'on se projette et qu'on prépare l'avenir aussi. Donc, ça ne servait à rien de changer tout le plan de ma famille, on va dire, juste pour moi, pour mon plaisir. Et alors que pendant des années, j'ai profité à 200% sans avoir de jours de repos parce que j'aimais ça. Voilà, j'ai profité de tout ce que j'avais à profiter pendant toute ma carrière.
Cette annonce, elle a eu lieu en novembre. Avec quelques mois de recul, t'es libéré de ce poids-là? T'as pas de regrets? T'as pas une petite musique dans la tête qui te dit « Ah, quand même
» Non. Franchement, j'ai jamais eu de regrets. Déjà, quand je suis parti du Stade Toulousain en Pro D2, tout le monde m'a dit « Oui, mais t'aurais dû trouver un club en Top 14 ». Non, c'est bon choix. Et j'ai jamais eu de regrets par rapport à ça et par rapport à mes choix parce que c'est réfléchi, c'est posé. Et derrière, ouais, je sais que c'est le bon moment. Et là, je prends énormément de plaisir à aller au stade, je prends énormément de plaisir à m'entraîner parce que je sais que c'est la fin derrière, mais je ne vois pas repartir sur un an de plus ou deux ans, quoi.
Parce que préparation, parce que comme tu le disais justement dans l'entretien à Canal+, la préparation d'avant-match est plutôt excitante, le match est plutôt sympa, surtout quand on balance des doublés face au stade. Allez, ouais, je t'en glisse une petite comme ça. Mais après, par contre, l'après-match est compliqué parce que là, tu mets plus 24 heures avec 3 bières dans le cornet, c'est 48 heures avec de l'eau, quoi. Plus tu avances dans l'âge, ouais, et plus la récupération est compliquée.
Il y a ça, il y a les intensités des entraînements qui sont démoniaques aussi. Mmh. Vraiment, on s'entraîne très très dur. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais nous, on s'entraîne vraiment très très dur. Et on a 2 jours de haute intensité au Stade Toulousain qui sont des fois plus durs que le match. Et si on ne peut pas assumer ça, c'est qu'on ne peut pas assumer non plus. Moi, les entraînements, c'est très dur. On les subit un peu physiquement, mais derrière, il faut qu'on soit prêt pour le match. Donc, c'est pour ça que l'avant-match et l'après-match, c'est terrible.
Ouais, donc, ma question, est-ce que les joueurs sont trop sollicités? On a parlé justement de la génération d'avant. C'est vraiment un rugby qui est complètement différent. On ne va pas faire les vieux cons, et surtout moi, à dire que le rugby était mieux avant. Mais c'était une autre préparation, c'était d'autres intensités, c'était un autre rugby. Aujourd'hui, est-ce que les joueurs sont trop sollicités? En tout cas, je pense qu'ils ne feront pas 15 ans de carrière comme tu as pu la faire, comme Pierre Rabanne a pu la faire, Benjamin Kaiser. Voilà, tu fais partie d'une génération qui sera peut-être la dernière à avoir joué 15 ans à très haut niveau.
Bien sûr. Aujourd'hui, on pourra, enfin, je dis des fois en rigolant avec Antoine Dupont, je dis, avec toutes les blessures que tu as eues, mon poulet, tu ne vas pas arriver à 30 ans. Donc, profite là jusqu'en 2023, parce qu'après, tu es fini. Donc, on leur demande de mettre beaucoup d'intensité aux entraînements, beaucoup d'intensité en match, avec beaucoup de matchs. Que ce soit en club, ils sont sollicités énormément parce qu'on a besoin d'eux. En équipe de France, pareil. Au bout d'un moment, ces mecs-là, ils vont exploser. Enfin, je ne sais pas quand, mais il va avoir. Je pense qu'il n'y aura pas, comme on a dit, 10 ou 15 ans de carrière.
Est-ce que ça n'a pas été aussi un des problèmes de ta génération, justement, en équipe de France? On l'a dit, tu as joué 10 ans en équipe de France, 64 sélections. Est-ce que ça n'a pas été aussi un problème? On a beaucoup tiré sur Philippe Saint-André, on a beaucoup tiré sur les joueurs, mais il y a cette intensité. Toi-même, tu l'as vécu. Stade Toulousain, Coupe d'Europe, championnat. Équipe de France, au bout d'un moment, t'es rincé. On attend beaucoup de toi sur les trois compétitions, et puis derrière, on vous tire dessus. Alors, les médias l'ont fait aussi, et puis les 65 millions de sélectionneurs que tu connais, justement, quand les matchs internationaux arrivent. Et c'est vrai qu'il y a il faut pas oublier, toi, tu l'as connu. Tu as connu ces 10 dernières années dans le rugby, et tu as connu cette intensité, tu as connu cette évolution aussi du très très haut niveau. Comment on le vit? Cette génération-là, on l'a beaucoup critiquée. Mais tu étais dedans et vous avez connu des saisons à 40-45 matchs.
Ouais, 35 matchs, c'est sûr que c'était. Ben, on est pris dans un cercle infernal, en fait. Comme je disais, quand on a eu cette période Covid, où on devait repartir en équipe de France, c'était la période de l'équipe de France, puis de la Coupe d'Europe. Je disais, enfin, mais comment on a fait pour tenir autant de temps, quoi? Donc après, c'était beaucoup de plaisir et de vivre parce que c'est quand même des beaux moments. On joue pour l'équipe de France,
bien sûr,
mais je pense qu'on joue pas à 100% dans toutes les compétitions. On joue et au bout d'un moment ça devient une routine. Voilà, on met les crampons, on met les chaussettes et on prend plus ce plaisir que je peux prendre aujourd'hui, en fait, parce que je sais que ça va s'arrêter. Mais on est pris dans ce cercle où match, entraînement, dodo, match, entraînement, dodo. On met les chaussettes, les crampons, ça, on fait 80 minutes et on enchaîne sur un autre match. On n'a même pas le temps de savourer que ce soit la victoire ou la défaite, parce qu'il y a de suite, il faut enclencher le lundi sur un déplacement. Et ce rythme-là, et après, on ne peut pas changer. C'est toujours les mêmes discours. On l'a eu en 2011 avec la France, quand ils arrivent en finale. On dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais voilà, c'est ancestral. Ça fait partie de l'équipe de France, ça fait partie du rugby français. On l'aime pour ça. Mais il faut qu'on s'habitue à avoir des collectifs un peu plus riches, un peu plus élargis, pour qu'on puisse faire plus de turnover.
Oui, désormais, des mesures ont été prises quand même pour protéger les internationaux, pour faire en sorte qu'ils jouent quand même de moins en moins. Tu trouves quand même qu'on joue trop?
Ouais, ils jouent trop, les jeunes. Enfin, ils jouent beaucoup trop, que ce soit en équipe de France. Après, c'est normal, ils prennent... c'est des top players, ils prennent le salaire qui va avec ça, donc on leur demande de jouer pour le club parce que c'est la vitrine du club, c'est la vitrine de l'équipe de France. Mais il y a des mecs qui arrivent à fin novembre après la tournée, ils sont cuits mentalement. Des fois c'est plus mental que physique, mais ils sont cuits, les mecs, parce qu'on leur demande énormément de concentration, parce que des fois ils sont fatigués, mais on fait beaucoup plus d'analytique, que ce soit avec au Stade Toulousain ou en équipe de France. Et du coup, les mecs, ils arrivent là, ils sont rincés, il faut qu'ils se replongent en 3 jours dans le nouveau système du Stade Toulousain. Et encore, on a de la chance, avec la période Covid, on ne s'est pas déplacé en Coupe d'Europe énormément, parce que là, normalement, ils attaquent le tournoi avec 2 matchs à haute intensité de Coupe d'Europe. Donc, c'est pas 4 matchs du tournoi, c'est pas 5 matchs, c'est quasiment 7, quoi.
Et c'est vrai qu'en fait, ce rythme de match, mais c'est pas de se plaindre, comme tu disais. on a la chance d'être rugbyman professionnel, on a la chance de gagner de l'argent, on a la chance de... Mais ça vaut pas non plus derrière de se mettre en danger aussi, à, comme tu l'as dit. Alors je me suis enflammé, je suis pas du tout marseillais, pourtant je suis picard. Je me suis enflammé à 45 matchs, j'aurais pu mettre 50, c'est les mecs ont deux semaines de repos dans l'année. 35 matchs, c'est déjà monstrueux quand même. Les chocs, les physiques qui ont évolué. Oui, le salaire suit derrière, mais on n'est pas dans cette réussite, argent, gloire, notoriété, à dire ça, c'est une réussite. Et ne pas prendre en considération l'aspect psychologique, l'aspect mental et toute cette préparation aussi pour éviter d'être fatigué au mois de novembre. On se met à la place d'un Dupont qui s'est déjà blessé au genou. Le mec est annoncé comme une star depuis 4 ans maintenant. C'est la star aujourd'hui du rugby français, voire mondial, au vu de ce qu'il a donné. Mais derrière, oui, il y a tout un suivi psychologique qu'il faut. Il y a aussi des temps de repos. Et peut-être que cette saison, en fait, un peu bizarre avec le Covid et cette Coupe d'Europe qui est mise entre parenthèses, permet, comme tu l'as dit, au corps de pouvoir se reposer, aux têtes de pouvoir se reposer et de préparer une bonne fois pour toutes. Et t'en as fait 6 quand même, un tournoi destination où les mecs sont prêts, ont un temps de repos, peuvent se préparer intégralement avec l'équipe de France et faire de bons résultats.
Non, mais c'est ça, c'est le temps de repos qui... Je pense qu'un joueur, Hugo est très réceptif et il fait un énorme travail. C'est qu'il ne peut pas enchaîner plus de 3 matchs à haut niveau, que ce soit en championnat. On a besoin de tourner au bout de 3 matchs parce que ce n'est pas possible d'avoir une telle intensité. Et si on veut performer, ce qu'on arrive à faire avec le Stade Toulousain, c'est qu'il y a énormément de turnover au bout de 2-3 matchs. On a tous une planification, que ce soit de matchs ou de temps de jeu. Et on sait que pour telle ou telle rencontre, on doit être prêt. Voilà, pour que le collectif continue de tourner, on peut pas. Si quand il nous met en vacances, c'est pas pour être en vacances, c'est qu'il nous met avec un prépa. Et quand il nous sort, il dit là, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois à 100%. Donc on a cet objectif-là. Et je pense que ça serait bien que ce soit un peu officiel qu'un joueur ne peut pas enchaîner plus de 4 matchs d'affilée. Comme le meilleur système, c'est celui de la Pro D2, 4-5 matchs, un week-end de repos. Celui-là, il est top.
C'est pas possible, il y a trop de matchs.
Non, je sais bien.
Oui, mais ça, c'est le grand problème. On ne se met pas à la place des joueurs qui sont quand même pourtant les acteurs principaux. Avant de parler de l'équipe de France actuelle, et tu la connais bien parce que je sais que tu la suis, mais derrière aussi que tu connais beaucoup de ces joueurs parce que tu en as beaucoup du Stade Toulousain. Avant de parler de l'équipe de France, je voudrais juste faire une parenthèse sur la reconversion. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur sur l'après-carrière. Est-ce que toi, de ton côté, tu l'as anticipé professionnellement? Est-ce qu'il y a une volonté de rester entraîneur, de quitter le milieu du rugby, d'y rester? Je ne te demande pas un scoop. Hein. Après, je sais que c'est le genre de choses aussi qui se préparent. Est-ce qu'il y a une formation derrière? Mais comment tu te projettes professionnellement après ta carrière?
Voilà, j'ai vraiment besoin de couper avec le rugby, en fait. Vraiment, pour en avoir parlé un peu avec le staff, c'est vraiment couper pendant un an, je pense. Faire les formations dont j'ai envie. Et on a aussi une planification sur la formation que je dois faire. Et pourquoi pas, après, au bout d'un an, revenir dans le rugby. Mais il faut que l'envie soit là. Il faut que ce ne soit pas une obligation. Se dire, voilà, j'ai déjà mon après-carrière de fait, donc je vais suivre ce chemin-là. Mais au bout d'un an, s'il faut, j'aurais plus envie de revenir dans le rugby. Donc, c'est prêt, tout est prêt. Il ne manque plus qu'à passer les formations. Je suis en train de les passer, mais j'ai vraiment besoin de couper, quoi. Couper avec ces semaines d'entraînement, match, semaine d'entraînement, match. Voilà, c'est juste penser un peu plus à ma famille et prendre du bon temps, surtout.
Bien sûr, ouais. Et puis on sait justement, on en a parlé, hein, du rythme qui est intense. Au niveau de la formation, ce serait quoi? Ce serait le, alors je sais pas, on parle beaucoup
non,
de PPGM.
Dans la prépa physique, dans la prépa et après voilà, je choisirai le secteur dans lequel j'aimerais m'épanouir et évoluer. Mais c'est vraiment ce secteur-là qui me plaît en fait. C'est moins ingrat que coach.
C'est pas possible. Tu te vois pas entraîneur?
Non, c'est pas que je me vois pas. S'il faut, je te dis ça et que ça va me manquer dans un an. C'est pour ça que je veux pas trop dire je vais partir là-dedans parce que s'il faut, c'est pas quelque chose que je vais apprécier. Mais en tout cas, pour moi, quand je vois le boulot que fait Clem ou Hugo, des fois, coach, c'est répété, je pense, dans la journée 150 fois la même phrase. Et parce que c'est un effet de groupe et qu'il faut faire passer le message. des fois, c'est plus social qu'être entraîneur de rugby. C'est aller voir les mecs, être proche. Ouais, c'est... Et Hugo, pour ça, il est arrivé et aujourd'hui a fait un énorme travail dans le vestiaire sur cet échange entre coach et joueur qui est remarquable.
Oui, c'est d'ailleurs le métier, tu l'as bien dit, hein, il y a le métier de manager, il y a le métier de coach, et coach c'est très anglais, mais toute l'approche, j'aime beaucoup la psychologie, moi, dans le sport, et le côté mental, mais travailler sur le mental, c'est d'être à l'écoute des joueurs, de connaître ses joueurs. Un pilier fonctionne pas comme un deuxième ligne, qui fonctionne pas comme un ailier. On a, justement, faut arriver à comprendre que sur 35 mecs, t'as 35 profils différents, et que tu vas pas parler à Johan Huger comme tu vas parler aux fameux trois petits cochons, qui doivent se motiver complètement différemment. Est-ce qu'il y a des business dont tu veux parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs justement qui pendant leur carrière aussi investissent dans des business qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Est-ce que toi tu t'es lancé dans des aventures pendant ta carrière qui te permettent à côté d'avoir un revenu, soit au moins une passion à côté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a...
J'ai investi dans un groupe hôtelier, mais pendant toute ma carrière, je n'ai pas voulu en tirer des revenus parce que je trouvais que j'en ai pas forcément besoin sur le moment. Bon, à partir de l'année prochaine, de 2022-2023, je vais récupérer mon dû et je vais pouvoir travailler en ce sens et puis faire évoluer aussi la société. Mais on a fait des petits placements, que ce soit même immobilier au Pays Basque quand on y était. Donc c'est ces revenus-là aujourd'hui qui vont être un complément de salaire et que c'est pour ça qu'on peut se permettre pendant un an de profiter pleinement de la famille.
Salut les enfants!
Voilà. On va parler avec Johan rapidement de l'équipe de France quand même.
Donc l'idée de parler un peu de l'équipe de France actuelle, on en a parlé, tes coéquipiers, Ntamack, Dupont, des mecs qui sont plongés dans le rugby depuis, qui sont biberonnés au rugby depuis leur tendre enfance. Aujourd'hui, c'est une génération qui est géniale. Pour parler justement de ta génération et de cette génération actuelle, qu'est-ce qu'il y a changer? Est-ce que c'est les deux titres de champion du monde des moins de 20 ans ou qui ont pu propulser justement cette génération sur le devant de la scène? C'est tout le travail de formation qu'on a beaucoup critiqué, mais en fait qui s'est beaucoup fait aussi à Toulouse. Qu'est-ce qui a changé entre ta génération et cette génération? En équipe de France, je parle, hein, parce que tu l'as quand même bien connu. 10 ans, 65, 64 sélections, tu l'as connu, cette équipe de France.
Je pense que ce qui a changé, c'est Fabien, tout simplement. Des fois, il faut le dire.
Fabien Galthié.
Fabien Galthié, ouais. qui a su tirer... Quand on voit ce qu'il fait avec une équipe entre B de l'équipe de France à Twickenham, on peut dire que l'équipe de France ne repose pas sur des joueurs, mais sur vraiment un plan de jeu. Mmh. On peut mettre n'importe qui. Et quand je discutais après le match avec Gaël Ficou ou avec Antoine, il est énormément dans l'échange. Mais tout le monde respecte ce cadre de jeu-là. Et on le sent bien quand on regarde le match. Il y a des situations qui s'ouvrent devant eux, mais ils respectent le plan parce que c'est comme ça et que sur cette occasion-là, ils ne gardent pas le ballon. Mais ils vont la garder peut-être un peu plus tard. Mais ils partent sur les 20 premières minutes pour être passé un petit peu entre les mains de Fabien pendant la Coupe du Monde. Et il nous a apporté... Il nous a apporté son expérience et surtout son
professionnalisme, ce cadre en fait qui manquait.
Ce cadre, mais qui est libre en fait, mais il veut qu'on respecte le cadre. Et si on fait une Coupe du Monde, bon, on sait la finalité, mais si on fait la Coupe du Monde et ce cadre contre les Gallois, c'est en partie grâce à son apport sur le détail. On arrivait sur le terrain et comme le disent aujourd'hui Antoine ou Romain, ils connaissent le moindre détail de leur adversaire. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de crainte, il n'y a rien. Ils connaissent tout et ils savent exactement comment va se passer le match.
Mais ça veut dire quoi? Que c'était moins vrai avant?
Peut-être qu'on faut se focaliser un peu moins sur ce genre d'importance sur le détail ou sur l'analytique et on était à la recherche plus de conditionnement physique et parce qu'on pensait qu'on avait du retard.
Il y a eu aussi une perte quand même de confiance, non pas en l'institution, mais T'as connu Guinovès quand même. Enfin, t'as eu Philippe Saint-André. Ensuite, t'as eu Guinovès qui a été viré, qui a ensuite été remplacé. Il y a tous ces changements je vais avoir un trou justement. Un centre de l'équipe de France qui joue à Clermont-Ferrand, messieurs. Allez, prenez vos buzzers.
Hein?
Wesley Fofana qui disait, et tu l'as vécu, 64 sélections. Lui, on avait, je pense que c'était à 50e sélection, qui disait, c'est très difficile de s'installer en équipe de France, même avec 50 sélections, quand tu sais que du jour au lendemain, tu peux être remis en question et être viré. La volonté, justement, et comme on l'a vu avec Fabien Galthié aujourd'hui, c'est d'installer les mecs à leur poste et d'essayer de pas changer 150 fois de charnière, par exemple, de pas changer 150 fois au poste de centre ou au poste de délié, de pas essayer de faire passer l'ailier à l'arrière comme tu as pu le vivre, mais d'avoir une constance. Est-ce que ça n'a pas été aussi le problème de ces 10 dernières années, comme tu l'as vécu aussi avec cette génération? De la constance, des matchs à rallonge, 35 matchs par an, enfin, il y avait quand même pas mal de problématiques que vous avez traversées. C'est Guillaume Guirado qui disait « Ma génération a bouffé la tartine de merde, a bouffé le pain noir, maintenant à vous de jouer. » Et t'étais dans cette génération, et c'est vrai.
Bien sûr. Ben, en fait, moi je suis arrivé avec la génération avec Marc Lièvremont. Donc je découvrais un peu tout ça. Et, enfin, je me demandais comment on pouvait tirer sur un sélectionneur toutes les semaines durant le tournoi, parce qu'il n'a pas été épargné, Marc, quand il a installé Morgan et François durant son mandat, et au final il gagne un grand chelem, il gagne pas mal de choses, il arrive en finale d'une Coupe du Monde, parce que les joueurs savaient qu'ils avaient la confiance de Marc. Notre génération, c'était l'homme en forme du moment. Donc si toi tu avais un petit coup de moins bien, tu savais très bien que tu pouvais ne pas être pris, donc tu jouais pour être rappelé et pour donner le meilleur. Mais tu savais que de notre côté, tu pouvais ne pas être rappelé parce qu'il y avait un mec qui jouait un doublon en top 14 et peut-être qu'il avait marqué un ou deux essais ou avait fait de bonnes performances, pouvait être rappelé aussitôt. Et aujourd'hui, les joueurs, quand on voit des joueurs comme Gaël qui jouait un peu moins ou en club, il a eu une mauvaise passe, mais il sait très bien qu'il a la confiance et qu'il va être rappelé. Comme il dit dans le Lettre Rugby Club, j'ai jamais douté à être rappelé. Ça, je pense que tous les joueurs du socle, on va dire des 23, comme Anthony Boutier qui vit une expérience un peu compliquée en ce moment avec son club, il est rappelé. Voilà, et c'est pas l'homme en forme du moment, c'est que il a confiance en ce groupe et il va amener ce groupe à une quarantaine de sélections à la Coupe du Monde.
Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ta carrière en équipe de France? Alors, j'ai raconté un peu le côté sombre de l'histoire parce que c'est ce qui a existé, mais il y a eu aussi des grands moments, tu l'as dit, 2011. Alors, 2011, malheureusement, tu n'as pas participé parce que on connaît l'histoire, mais 2015, enfin, il y a eu des grands, grands moments sportifs.
Il y a quand même quasi 10 ans en bleu.
Oui, 10 ans en bleu, c'est quand même c'est magnifique, rien, monstrueux.
C'est une grosse carrière internationale, t'en retiens quoi, toi?
Franchement, c'est. Déjà, c'est que ça passe très, très vite. Quand on y est, on n'a pas l'impression. On se dit, Marc aussi. Mais en fait, on prenait énormément de plaisir à se retrouver. Et que malgré tout, même s'il n'y a pas eu de victoire durant le tournoi, on a souvent été... C'est des tournois qui ont été joués avec des points de bonus offensifs. On pouvait être deuxième ou premier ex aequo et on se retrouvait sur troisième, sur quatrième parce qu'il y avait l'Angleterre qui jouait sur l'Italie ou l'Irlande. Donc du coup, voilà. Mais il y a toujours eu du challenge jusqu'au bout, à chaque fois qu'on a joué. Et c'est des matchs où on a pris énormément de plaisir. On a senti cette ferveur du public derrière l'équipe de France, quoi qu'il arrive. On a essayé de donner le maximum. Et ouais, c'est des voyages qui sont... Des voyages qui sont magnifiques à faire et que le rugby te donne l'opportunité de faire. Et surtout des matchs comme France-Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande, voilà, même si tu les prends trois fois chez eux, tu passes, c'est compliqué, mais c'est énormément de plaisir à découvrir ce pays parce qu'il n'y a que le rugby qui peut nous offrir ça. Je ne vais pas prendre un billet pour partir en vacances en Nouvelle-Zélande, mais grâce au rugby, j'ai pu le faire. J'ai eu la chance d'aller défier les Blacks là-bas et on a pris énormément de plaisir.
15 ans de voyage dans le rugby pro, ouais, ça marque un homme. On va pas parler du regret. Moi, j'ai plus envie de parler d'un des meilleurs souvenirs que tu aies pu vivre, que ce soit avec l'équipe de France, avec Agen, avec qui t'as été champion, avec Bayonne, avec Toulouse, avec l'équipe de France. Il y en a un qui te vient à l'esprit comme ça sur les 15 dernières années. Difficile, hein.
Ouais, c'est difficile parce qu'à Bayonne, j'ai vraiment rencontré le rugby professionnel avec Christian Gagen et Thomas Lièvremont, avec Fred Tauzin aussi, qui m'ont permis d'évoluer, de connaître l'équipe de France. On avait une équipe, on a pris énormément de plaisir avec des Mike Phillips, avec des Cédric Clémence. On avait Benji Boyer, c'était vraiment une équipe où on rivalisait avec tout le monde et le public qui était là, c'était fantastique. À chaque gros événement, c'était fabuleux.
Donc en fait, tu nous parles plus de Bayonne que de Toulouse. Bon. Attends. Moi, quand on me pose la question sur ma carrière, bon, j'ai pas joué les finales du club, donc ça c'est cadeau. Mais le meilleur souvenir pour moi, c'est le moment, le passage du rugby de mon rugby amateur pendant 10 ans au rugby pro. C'est 99, c'est le titre de champion de France Réchelle. C'est le moment où tu découvres la machine. Et toi, tu la découvres comme tu l'as dit avec Boyer, avec Emmons qui était sur sa fin de carrière, on peut le dire. Ouais, ouais. Mais tu découvres justement avec Thomas Lièvremont, qui n'est pas le dernier, avec un public qui est l'un des plus beaux publics de France, quand tu arrives à 20 piges dans le bordel, ouais, ça marque. Ouais.
Ben, on fait partie d'une équipe, même à Agen, où quand on est en Pro D2, à l'époque, ce n'est pas autant télévisé qu'aujourd'hui, la Pro D2. Donc, on est quand même dans l'anonymat. Si tu ne marques pas, le mec il va ouvrir le midi olympique, il ne va pas savoir que tu as marqué. C'était une autre génération. Et le fait d'arriver à Bayonne en top 14, ou quand on commence à arriver à faire des bons résultats, ben, du coup, on est un peu plus télévisé, il y avait du challenge, on était à deux doigts de se qualifier pour les barrages. Donc, c'était vraiment, et en plus, il y avait le derby, et c'était animé parce que ça se joue entre Bayonne et Biarritz pour la qualif. Donc, c'était vraiment une année très forte sportivement et émotionnellement.
Avant qu'Olivier ne te pose la dernière question, moi je voulais savoir, parce que vous l'expliquez jamais ça sur le bord du terrain quand vous marquez, et Dieu sait que tu en as marqué des essais, mais il y a toujours un petit signe que tu faisais, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors est-ce que ça peut être très personnel, auquel cas je veux pas rentrer dans l'intime, et comme je veux pas rentrer dans l'intime du vestiaire, mais tu fais toujours un petit signe à chaque fois que tu marques un essai. Ça fait 10 ans qu'on te voit, est-ce qu'on peut avoir quand même le fin mot de l'histoire, ou c'est juste pour le côté intime de ta femme, de tes enfants ou
Tu parles du salut?
Oui.
Non, c'est par rapport à... Mon frère, il veut se lancer dans l'armée. Et je trouvais que ça voulait dire être un peu au rendez-vous, le salut un peu militaire, au rendez-vous de... c'est être avoir répondu présent.
Voilà, d'accord.
Être répondu présent. Et c'est grâce aussi un peu à mon frère qui veut être dans l'armée. Donc, c'était... Je trouvais que ça se mélangeait bien avec... j'ai marqué, je suis au rendez-vous et... Au garde à vous, quoi.
Ouais, et puis c'est une dédicace pour ton frère. Je trouve ça, hein, c'est, tu vois, c'est des belles histoires. Il y a que dans Poulain Rafut, mesdames et messieurs, que vous entendrez ce genre d'histoire. C'est tout.
Ouais, je voudrais qu'on pose une dernière question, moi, à Johan, avant de se quitter. Tu as eu une belle phrase à la fin de ton entretien sur Canal. Tu as dit, j'ai essayé d'être le plus sincère et le plus droit possible avec mes coéquipiers. C'est l'image que tu souhaites laisser avant tout.
Ouais. Je me suis vachement, après 2011 et mon histoire, entre parenthèses, je me suis vachement protégé sur ce que je pouvais. Je voulais être neutre, rien transmettre. Et je me suis un peu trompé là-dessus, en fait, parce que le sport mérite des sentiments, mérite des émotions. Et je voulais pas en transmettre parce que je me suis dit qu'on pouvait s'en servir contre moi, comme avec l'AFLD. C'est l'erreur que j'ai pu faire, je pense. Mais vis-à-vis de mes coéquipiers, j'ai toujours essayé de donner le maximum, de m'engager à 200% d'une fois que je mettais le maillot avec eux. Je voulais juste qu'ils sachent qu'ils pouvaient compter sur moi s'ils m'avaient dans leur équipe. Quoi. C'était juste ce que j'avais envie de renvoyer comme image par rapport à eux.
Puis il y a eu derrière aussi, au-delà de cette histoire, Il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux aussi. Hein. Toi, tu fais partie de la génération qui n'a pas connu les réseaux sociaux au début. 2005, 2006, il n'y en avait pas. Mais toute l'arrivée des 2010 et cette espèce de déferlante d'abrutis et de haters aussi que tu peux rentrer en tant que joueur, ça peut toucher aussi. Et ça peut, à un moment, en fait, te dire, ben voilà, il y a les réseaux sociaux, moi, je m'en occupe plus. Et pourtant, c'est quand même un lien qu'il peut avoir avec les supporters. Mais à un moment, quand t'en prends plein la gueule aussi, chose qui a pu t'arriver, t'aurais juste envie de dire, je mets ça de côté. Et c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Et c'est la critique qu'on peut faire aux réseaux sociaux. Ça n'a pas grand-chose de social à partir du moment où c'est là que pour montrer du doigt, pour dégueuler et cracher sans véritablement connaître l'histoire du joueur.
Aujourd'hui, on est dans une phase où ça fait partie de notre vie. Nous, quand on était joueurs en 2010 ou la Coupe du Monde 2011, on n'avait pas ça. Tu vois, c'était vraiment... entre 2011 et 2015, il y a une évolution par rapport à ça où on n'était pas préparé. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils sont préparés. C'est-à-dire qu'ils fassent un mauvais ou un bon match, voilà, ils savent ce qu'il en est et ils ont une faculté à passer à autre chose. Nous, à notre époque, on le prenait un peu à cœur et un peu pour nous, tu vois, personnellement, alors qu'il fallait vachement plus de détachement, comme à la nouvelle génération. Et on n'a pas su avoir, ne serait-ce l'utilisation à bon escient de ces applications ou de ces réseaux. Mais voilà, c'était une étape à franchir et c'est vrai que des fois, on avait envie un peu de les laisser de côté, mais c'était pas, il fallait savoir s'en servir.
De côté ou de les rencontrer un peu, tu vois, ces gens-là. Tu vois, juste une rencontre. Juste au troisième, tu sais, au troisième sous-sol du Super U de Tournefeuille, là. Venez, venez, on va discuter. Non,
c'est vrai que sur le moment, ça te m'a pris, mais après, ouais. ça sert à rien parce que on peut pas accepter de recevoir des éloges quand tout se passe bien et à contrepartie, quand ça va mal, avoir que du soutien. On a déçu des gens et les gens l'expriment comme ça parce que c'est le seul moyen direct qu'ils ont avec nous. Donc, c'est ce que j'aurais aimé comprendre avant l'utilisation de tout ça. C'est qu'on me dise, voilà, tu fais des bons matchs, tu es content de recevoir, mais il faut accepter de prendre aussi quand ça se passe mal et passer à autre chose.
L'avantage, une fois de plus, c'est comme le disait Guillaume Guirado, et même à ce niveau-là, je pense que votre génération a bouffé la tartine de merde, même au niveau des réseaux sociaux, parce que vous les connaissiez pas, et qu'aujourd'hui, les mecs, ils sont préparés. En plus, on sait qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui vont dans les clubs pour sensibiliser les jeunes aux réseaux sociaux, à l'approche des réseaux sociaux. Donc, tant mieux. Il y a une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 6 prochains mois? Un titre, on l'imagine bien, surfer sur le Stade de France, on l'imagine aussi derrière, et une bonne transition vers l'avenir.
Ouais, du plaisir surtout, parce que des fois, on oublie cette notion de plaisir. Comme je l'ai dit, on enchaîne les matchs, on enchaîne les victoires ou les défaites, mais on oublie que ça reste du sport, ça reste du plaisir, et je veux juste prendre du plaisir jusqu'à la fin et avoir une issue, on va dire, favorable. Déjà, retrouver du public et partager, comme je l'ai dit, les émotions avec les supporters, ce sera déjà quelque chose de gagné.
Je pense que c'est le sens de la vie, et pour conclure, je pense que c'est ça, c'est en fait au moment où on se rend compte qu'on n'a plus les potes autour, la fameuse vie sociale, et même avec le public, tu viens d'en parler, en fait on se rend compte que ces moments-là, ils sont essentiels, voire vitaux, et c'est peut-être ce qui nous différencie des animaux, c'est ce lien social dont on a besoin. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite au Stade Toulousain, de retrouver un stadium ou un Stade Denier plein. On vous souhaite aussi, et c'est un Parisien qui vous le dit, on souhaite de gagner aussi un titre, parce que Toulouse fait aussi rêver aujourd'hui, et le meilleur pour toi. Merci pour ce moment. Bon moment de partage, c'était bien cool. On a réussi à l'avoir. Et si tu veux en parler à la génération future, leur dire que les mecs sont bienvenus ici, qu'on tire pas à vue et qu'ils ont la liberté de pouvoir échanger avec nous, ils sont le bienvenu. Je dis ça juste pour conclure parce que, comme je te le disais, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller chercher les joueurs actuels. Il faut passer par la grand-mère, du cousin, du père, de l'oncle, du mec qui s'occupe de la com. Ce qui est aujourd'hui le rugby actuel, je n'ai pas de problème avec ça. Mais en faisant passer le message à la génération future en disant « Welcome dans Poulain Rafut ». En tout cas, t'es venu. Merci à toi. Merci à Sébastien qui est derrière la caméra. C'était bien cool. Et merci à Olivier qui est en direct de chez lui. Merci à toutes et à tous. Bon week-end rugby. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et Johan, à très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci.
Salut. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.